cours de théologie fondamentale donné par le père Marie-Dominique Philippe, le 20 décembre 1984, Saint-Joseph.
Nous avons vu, si vous vous rappelez, la position d'Aristote au point de vue de ce qu'est la parole. Nous avons essayé de regarder dans Heidegger ce que c'est que la parole prise dans son sens ultime, le poème. C'est intéressant de faire ce parallélisme, et ça ce serait très important de le creuser, d'Aristote à Heidegger. C'est légitime de le faire, puisque Heidegger lui-même commente et interprète Aristote. Donc c'est pas factice. Mais c'est toujours ça qui est intéressant, c'est d'essayer de saisir au point de vue philosophique quand même les liens profonds, souterrains qui existent beaucoup plus qu'on le dit. Hein. Vous voyez, on le fait d'Aristote à Descartes par rapport aux interrogations. Je vous l'ai déjà dit. Parce que Descartes lui-même montre qu'il faut inverser l'ordre d'Aristote. Quand il s'agit de Kant, Kant ne fait pas beaucoup d'allusions à Aristote. C'est intéressant de voir que Heidegger revient à Aristote. C'est intéressant au point de vue de l'histoire de la pensée, au point de vue de ceux qui s'intéressent à l'histoire de la pensée philosophique, de voir tous les auteurs qui font allusion express à Aristote. Ça sera intéressant à faire pour nous qui nous intéressons à Aristote. Ce sera intéressant de faire un travail dans cet ordre-là. C'est un travail qu'on peut très bien faire. Et ce serait une manière, vous voyez, de saisir l'histoire de la pensée occidentale. Il y a Platon et Aristote, hein, pratiquement. Il y a des néoplatoniciens et des aristotéliciens. Ceux du moins qui désirent s'enraciner dans une grande tradition. Puis à ceux qui sont autodidactes et qui considèrent qu'il n'y a rien de mieux que d'être autodidacte, c'est-à-dire d'être des orphelins au point de vue de la pensée. Alors ça fait partie d'un certain génie particulier qui est souvent court. L'autodidacte, il n'a pas beaucoup d'enracinement. Et si on est néoplatonicien, c'est quand même quelque chose de très grand. Si on est aristotélicien, on l'est aussi. Alors, ça ne veut pas dire, quand on dit qu'on est aristotélicien, qu'on va répéter Aristote. C'est de la bêtise. Les philosophes ne se répètent pas. Mais les philosophes s'aident mutuellement. Ce sont des amis qui cherchent la vérité. Et on cherche la vérité. Alors, on a une espèce d'autonomie très, très grande. Et une indépendance. Mais on aime de se retrouver. Donc, comprenons bien ces deux positions au point de vue de la parole, parce que je crois que ce que nous verrons après Noël, le mystère de la parole divine. Je vous ai déjà dit, Jésus aurait pu inventer une langue. Hein? Le petit enfant Jésus aurait pu se mettre à parler une langue particulière. Je ne sais pas comment il aurait appelé Marie, mais il l'aurait appelé d'une voix. Puis il aurait enseigné sa mère. Bon, c'est possible. C'est quand même plus qu'un docteur de la loi. Il aurait pu enseigner sa mère. Il aurait pu être et enseigner Joseph après. Il aurait pu inventer une langue. Et à partir de là, on aurait une langue chrétienne. Moi, j'ai toujours ça comme rêve. Hein. On aurait une langue chrétienne. Et quand on aurait reçu le baptême, on aurait reçu une langue nouvelle que seuls les baptisés parlent. Alors on aurait une supériorité, vous voyez, sur tous les autres. On aurait une langue chrétienne venant de l'enfant Jésus. C'est un très beau mythe, ça. C'est magnifique d'inventer l'espéranto. Hein. Alors on aurait une langue chrétienne qui aurait été absolument universelle, merveilleuse, qui serait venue de l'enfant Jésus. Non, Jésus a appris la langue de Marie. Et a appris la langue de Joseph. Et il n'a pas voulu inventer un nouveau langage. C'est quand même très extraordinaire, ça. Parce que le logos, hein, l'homme est un animal politique par le logos. Nous verrons ça dans Aristote. Et ça, c'est très très beau, cette affirmation. L'homme est un animal politique à cause du logos. Alors, vous comprenez bien, si on a une langue particulière, on a donc une communauté particulière. On pourrait dire, il y a ceux qui sont des A, et ceux qui sont zut. Alors vous avez les différentes particulières, deux communautés spéciales. Ceux qui sont des prophètes et qui disent A. C'est-à-dire qu'ils veulent dire que Dieu n'a pas changé de langage. Et ceux qui disent zut, ça veut dire ceux qui coupent par rapport aux autres. Hein. C'est très curieux du reste. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très significatif ces choses-là. Ceux qui brisent et ceux qui unissent, ceux qui sont dans l'admiration et ceux qui mettent la négation avant. Parce que quand vous dites zut, vous coupez. Du moins, normalement, c'est comme ça que vous faites. Vous enlevez le contact. Tandis que quand vous dites ah, vous écoutez. Et vous entrez dans le contact. Alors, c'est intéressant de voir que Jésus n'a pas inventé de langue. Et ça, nous le verrons. C'est quand même très important. Donc, il n'a pas inventé de nouvelles communautés, d'une certaine manière. C'est pour ça que la famille demeure. Alors, il y aura une nouvelle communauté par la foi, mais une communauté qui s'enracine dans la communauté humaine. L'Église s'enracine dans la communauté humaine. La famille, c'est le lieu commun de l'Église et de l'État. C'est pour ça que c'est toujours dans la famille que les luttes se font. Et les luttes les plus acharnées. C'est la famille. Puis alors, les sommets, nous verrons ça en philosophie politique, l'empereur et le pape. Les grands affrontements. N'est-ce pas ? C'est l'empereur et le pape. C'est les deux politiques particulières. Alors, jusqu'où y a-t-il une politique du pape ? L'empereur, on sait qu'il y a une politique. Alors, jusqu'où y a-t-il une politique? Ça, ce sera très intéressant. Ce sera le terme du logos, vous comprenez bien. Alors, on le voit au point de vue politique. Il faut essayer de comprendre ces choses-là. Vous voyez, ces cours sont différents, mais il y a quelque chose de commun qui unit tout ça. Il faut progressivement arriver à trouver ces leitmotifs communs. Alors, ce que nous regardons maintenant, c'est qu'au point de vue philosophique de la parole, Aristote a été le premier, après Platon l'a fait quand même aussi dans le Cratyle, à réfléchir sur la parole. Alors, Platon a essayé de comprendre comment le logos sort du mythe. Et Aristote, profitant après Platon, essaie de comprendre comment la parole s'organise logiquement. Et Heidegger revient à la parole liée au poème. C'est curieux, hein ? Là vous avez un grand cheminement. C'est évident, on prend les sommets, mais c'est quand même ce que nous devons essayer de comprendre. Du mythe sort le logos, et du logos on retourne au poème. Alors, entre le mythe et le poème, il y a une parenté. C'est que des deux côtés, on est en face d'un langage symbolique. Si des deux côtés, on est en face d'un langage symbolique, on est en face d'un langage qui est lié très profondément à l'affectivité. Un poème est lié à l'affectivité. Tandis que le logos logique se sépare de l'affectivité. C'est affectif, la logique. Hein ? Ça, on ne peut pas nier. C'est quelque chose d'assez particulier. Et donc, c'est le langage qui veut être le plus objectif possible. Et toujours, les logiciens tiennent à cela. C'est par là où ils sont d'une sensibilité, d'une susceptibilité invraisemblable. Nous sommes les seuls à avoir un langage objectif. J'ai entendu ça. J'ai retenu, parce que c'est intéressant d'entendre cette revendication de la logique et de la logique mathématique, entre autres. Parce que c'est la logique mathématique qui veut aller jusque-là et qui veut justement avoir cette espèce d'objectivité à l'état pur. Et l'objectivité à l'état pur, je vous l'ai dit, conduit à ne plus regarder la signification. Alors on a un langage symbolique, ça dit beaucoup ça, c'est-à-dire sans signification. Et qui est uniquement un langage de fonction. Et au fond, le symbolisme mathématique, c'est un langage fonctionnel. C'est plus du tout le symbole tel qu'il est chez le poète ou tel qu'il est dans le mythe. Le symbole tel qu'il est chez le poète et dans le mythe, c'est un symbole qui est lié à l'affectivité, qui est lié à la représentation. Tandis que le symbolisme de la logique mathématique, c'est un symbolisme fonctionnel. C'est la fonction particulière que tient la parole dans la proposition. C'est quelque chose de tout à fait particulier. C'est un symbolisme qui est à l'état pur, si vous voulez, la fonction. La structure dans la proposition, vous essayez de situer exactement ce que c'est que l'universel au niveau fonction, mais pas du tout au niveau du contenu. Alors, qu'est-ce que nous voyons quand nous regardons Aristote, Heidegger? Nous voyons qu'Aristote a eu le souci de montrer que le langage, que la parole était porteuse de signification. Je crois que c'est ça le propre de la pensée d'Aristote. Et de montrer que cette signification est diverse. Puisque vous avez la signification du nom et la signification du verbe. C'est très important pour Aristote, ça. Et vous avez la composition des deux qui est l'énonciation. L'énonciation, c'est ceci et l'énonciation, c'est le contenu du jugement. Ceci est. Alors, dans ceci est, vous avez le nom et vous avez le verbe. La synthèse ceci est n'est pas. C'est une synthèse très particulière. Et au-delà donc du nom et du verbe, vous avez la signification. La signification de la parole prise dans sa simplicité, c'est-à-dire le point de vue du terme, un terme simple. Une signification. Vous prenez toujours le chat. Vous prenez le blanc, peu importe. Vous avez le chat blanc. N'est-ce pas? Alors c'est le chat et le blanc. Ça, c'est la signification. Puis le nom et le verbe. On peut dire qu'il y a trois aspects qu'Aristote distingue dans le langage. Le point de vue de la signification à l'état pur. Là, je suis au niveau, j'allais dire, de ce que représentent les prédicables. C'est-à-dire l'universel. Dans ce qu'il a de plus formel, les prédicables. Les prédicables, genre, différents spécifiques. Je les répète exprès pour que vous arriviez petit à petit à connaître ça parfaitement, hein, puisque vous n'avez pas de cours de logique formellement. Différents spécifiques, espèces, propres, absolus. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est l'universel. Vous voyez que l'universel, pris de cette manière-là, les cinq prédicables. Les cinq prédicables, vous pouvez les regarder dans leur fonction propre. La fonction du genre, la fonction des différences spécifiques, la fonction de l'universel, c'est des fonctions propres. Vous avez l'universel fondamental, c'est la fonction du genre. Il englobe le plus, c'est le plus œcuménique. Soyez générique et vous êtes œcuménique. C'est-à-dire, soyez le plus indéterminé possible et vous êtes œcuménique. ça, que c'est comme ça la plupart du temps. Vous englobez tous. C'est l'englobant. Les gens qui sont des englobants. Ils embrassent le plus possible. Alors on est plus indéterminé possible. Plus on est déterminé, plus on est englobant. Vous voyez ? Alors vous ouvrez les bras et vous ne savez plus, il n'y a plus de tête aussi. Enfin, il n'y a plus de tête. D'habitude, les bras, il y a la tête au milieu. Alors il faut couper la tête pour être englobant purement et simplement. Et là, vous avez le genre. Il faut saisir la spiritualité du genre. C'est très intéressant de saisir la spiritualité du genre. L'aspect le plus fondamental, c'est ex parte materiae. Ça te dit que le genre se prend de la matière. Ça te m'a très bien saisi tout ça. Alors il le dit dans un langage très propre. Moi je vous le dis dans un langage un peu figuré pour que vous compreniez mieux. N'est-ce pas ? Mais au fond, c'est ça le genre. Il se prend du côté de la matière. Il y a des gens qui ont le sens de la matière. C'est très très bien d'avoir le sens de la matière, mais si on n'a que le sens de la matière, c'est l'englobant. La différence spécifique, c'est l'universel déterminé, le plus déterminé qui soit, le plus formel qui soit. L'universel le plus formel qui soit. Ainsi que l'espèce. Mais l'espèce contient le genre. Et la différence spécifique, il y a les deux. Donc, l'aspect de la formalisation la plus grande, c'est la différence spécifique. Que vous n'atteignez jamais. Un seul camp où vous atteignez la différence spécifique, rationnelle. Ça, il faut le retenir. Alors, je comprends qu'on aime le rationnel, parce que c'est la seule différence spécifique que vous connaissez. Vous ne connaissez pas d'autre. Vous ne connaissez pas la différence spécifique du champ. Il a des griffes. Il n'y a pas que le champ qui a des griffes. Alors, la différence spécifique du champ, vous ne la savez pas. Et c'est là où on voit la pauvreté de la science. La science n'arrive pas à saisir la différence spécifique. Tandis que le philosophe saisit une différence spécifique. Une seule différence spécifique. Une seule différence spécifique rationnelle. Vous n'en saisissez aucune autre. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule espèce, l'homme. C'est extraordinaire. Et l'espèce, c'est la définition. Vous n'avez qu'une seule définition logique qui est propre. Une seule. L'homme, animal raisonnable. Il n'y a pas d'autre définition absolue. Absolument pas. C'est très très intéressant de voir ça. C'est quelque chose de très très fondamental et qui nous montre la pauvreté de notre intelligence. Parce que vous n'avez qu'une seule espèce que vous saisissez. C'est déjà beaucoup. Animal raisonnable. Animal rationnel. Vous voyez ? Alors vous avez l'enveloppement, l'animal. Et puis vous avez rationnel qui vient préciser. Puis alors le propre, c'est ce qui remplace la différence spécifique. C'est d'avoir des griffes. C'est d'être bipède. C'est très intéressant d'avoir deux pieds, de pas d'avoir quatre. Vous en avez une troisième de temps en temps quand il y en a un qui ne va pas, là, vous prenez une béquille. Alors vous avez trois pieds, là, artificiellement. Alors, le propre. Et puis l'accident. L'accident. Quand on est un peu sophiste, on aime les accidents. On aime les accidents. Chaque fois. Et c'est très curieux. C'est toujours quand vous n'arrivez pas à discerner le propre de l'accident. Autrement dit, l'universel a cela. L'universel est lié au prédicat, il est lié aux significations. Les significations sont des significations englobantes, précises, tout à fait déterminées, propres, accidentelles. C'est tout la recherche de la signification, ça. Alors, la recherche de la signification, comprenez bien, c'est la recherche du taux d'IF. C'est lié à ça. C'est lié à la culture. On recherche trouver la détermination fondamentale de la réalité. Et l'intelligence est faite pour préciser la signification. Déjà, quand je regarde le verbe et le nom, ce n'est plus appréhension. Ici, c'est le jugement. Le jugement implique nom et verbe. Or, le nom et le verbe disent quelque chose de différent que la signification. Et c'est le passage entre les deux qui fait que, justement, le nom, ceci, c'est ce chant. C'est pas simplement chant. C'est ce chant, le ceci, le ton des ti, hein, le ti au sens fort, indique un individu, un sujet. Le nom, c'est ce qui est sujet. Le passage de l'attribut, le prédicat, c'est ce que attribua. L'universel est essentiellement attribuable. Essentiellement attribuable comme genre, différent spécifique, les cinq modalités de l'attribution. L'universel est essentiellement attribuable. La signification est essentiellement attribuable. Le sujet, c'est ce qui n'est attribué à aucun. C'est juste opposition. Le sujet, c'est juste opposition de l'attribution. C'est très curieux, ça, ce passage entre l'attribuable et le sujet. Et c'est ce que vous voyez dans les catégories, quand vous voyez substance première, substance seconde. Vous retrouvez la grande division entre le sujet, ce qui est attribué à l'autre, et qui reçoit toutes les attributions. Le verbe, il est attribuable, mais il est attribuable autrement que l'attribut. C'est une autre attribution. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Vous avez là trois données, une espèce de petite trinité intérieure que vous portez en vous, que vous formez en vous. Une trinité au niveau des êtres de raison. C'est la trinité des êtres de raison. C'est très très... Et ça, c'est toute la logique qui me permet de comprendre ça. Si je fais un peu la critique de la logique, je vois que l'attribuable, l'universel, le nom et le verbe à l'état pur, c'est ceci est. Ça, c'est l'état pur. Vous pouvez dire autre chose. Vous pouvez dire Pierre mange. S'il mange, il existe. Autre chose est d'exister et manger. Hein? Pierre est mangeant. Il mange. Vous voyez? Donc c'est un verbe, ça. Le verbe exprime l'action. L'action ou la passion. Pierre est dans le fond de son lit. Il souffre. C'est une manière d'agir, hein? De souffrir. Donc action et passion. Et puis, l'exister. L'exister est au-delà de l'action et de la passion. Ça, nous le verrons. C'est très important. L'exister est au-delà de l'action et de la passion. Mais l'action et la passion expriment deux manières d'exister. Vous existez en agissant, vous existez en pâtissant. Et puis vous existez. Et le verbe, c'est ça. Vous voyez, comme c'est autre chose que l'attribution. Parce que c'est l'action. L'action a une signification. Mais est-ce que être a une signification ? Alors, on se trouve devant, vous voyez, des choses qui sont très très fondamentales, et tout ça, c'est le mot. La parole est ou un attribut ? La parole est ou un nom ? La parole est ou un verbe ? La parole, c'est tout ça. Et la parole peut être en plus, troisième opération de raisonnement. Ça, c'est le nous, c'est mon intelligence. Mon intelligence appréhende, elle juge, elle raisonne. Et quand elle raisonne, qu'est-ce qu'elle met ? Elle met des relations. Pierre est intelligent. Et il est bon. Et il est bon. Petite conjonction. très très curieux. Ça, c'est parti de la chose. Pierre est intelligent et il est bon. Qu'est-ce que ça veut dire « et il est bon » ? Vous mettez des additions, des soustractions. Pierre est intelligent et s'il était bon, il serait encore plus bon. Il est intelligent, mais il est intelligent, mais il manque de bonté. Mais c'est curieux, ce besoin de relation. Alors, la relation, qu'est-ce que ça fait? Ça ajoute, ça soustrait, ça met des liens de causalité, ça met des liens de non-causalité, d'injonction. C'est tout ça le raisonnement. S'il n'y avait pas de raisonnement, vous ne pourriez pas ajouter. Le raisonnement ajoute. Il ajoute d'une façon organique, il ajoute d'une façon non organique, il soustrait. C'est très très curieux. Alors qu'est-ce que ça ? C'est pas de la signification quand vous dites « et ». Vous avez donc, et ça je crois que c'est très important, de comprendre que le langage implique signification. Il implique le point de vue du sujet. Il implique le point de vue du verbe. Il implique le point de vue de la relation. Car, si je suis aristotélicien, si j'essaie de regarder ce que c'est que le langage, philosophiquement, pas au point de vue philologiquement, philosophiquement, j'essaie de comprendre le langage. Alors, philosophiquement, ça veut dire par rapport à la réalité. Parce qu'au point de vue philologique, ce sera le conditionnement du langage dans une phrase. Ce sera le conditionnement du langage à travers l'évolution. Mais ce sera autre chose. La philologie n'est pas la philosophie du langage. La philosophie du langage, c'est de regarder le langage par rapport à la réalité. Parce que la signification, c'est par rapport au signifié. Le verbe, le sujet, c'est par rapport au signifié. La passion et le verbe, c'est aussi, ainsi que la relation. Donc, vous avez quatre aspects irréductibles. Irréductible. Vous ne pouvez pas réduire la signification au nom, vous ne pouvez pas réduire le verbe au nom, vous ne pouvez pas réduire la conjonction ou tout simplement les divers liens de causalité et d'effet qui sont toujours des relations. Les relations sont multiples. Alors elles sont de types différents. On pourrait étudier la diversité des relations. Ça, on le verra à propos de la relation philosophique. Et là, vous penserez à ce moment-là à ce qu'on représente la relation. Parce qu'il y a des relations multiples et diverses. Il y a des relations d'ordre quantitative, l'addition ou la soustraction. Il y a des relations qui sont par l'action et la passion, la causalité. Il y a des relations qui reposent sur la qualité, la similitude et la dissimilitude. Mais, c'est très curieux. Mais vous retrouvez toujours un point de vue de relation. Et l'intelligence, de fait, dans ces mots, implique ce point de vue de la relation. Donc, nous avons ce langage étudié philosophiquement à partir de la logique. Et dans la logique implique toujours le langage. Je ne peux pas faire une logique sans le langage. Ça aussi, c'est un point de vue qui est très intéressant à voir. Je ne peux pas faire la logique sans le langage. Le langage est toujours présent dans la logique. Parce que j'ai besoin d'objectiver ce que je pense. Mais je ne peux pas faire une logique purement de la pensée. La logique repose sur la pensée, mais elle implique toujours une pensée qui s'exprime, qui se dit. La logique est au niveau du legein, du dire, et pas uniquement au niveau de la pensée. Donc c'est toujours le lien entre le point de vue du dire et de la pensée, la logique. Qu'est-ce que fait Heidegger en face de ça? Il voit le poème. Vous vous souvenez? On a vu que c'était, regardez, la parole pour elle-même. Tout son but, c'est de chercher la parole parlante. La parole pour elle-même. Et la parole pour elle-même n'est parole plénière que dans le poème. Donc, j'essaie de regarder la parole comme une œuvre. Non plus du tout par rapport à la réalité ou par rapport à l'homme qui parle, l'homme parlant. Le legen, c'est l'homme parlant. Et l'homme parlant, c'est l'homme pensant. Et c'est l'homme qui communique la pensée. Et il communique la pensée en se servant de son conditionnement, et son conditionnement est divers en fonction de l'appréhension, du jugement et du raisonnement. Et donc, par rapport à l'homme, je vois tout de suite la diversité de la parole dans le point de vue de la pensée. Appréhension, jugement, raisonnement. Si je regarde la parole pour elle-même, je ne regarde plus l'homme, je ne regarde plus la réalité pensée, je regarde la parole qui se tient en elle-même. Et la parole qui se tient en elle-même, je dis, c'est le poème. Et c'est vrai que c'est le poème qui est la parole qui se tient en elle-même. Pourquoi ? Parce que par rapport à la parole qui se tient en elle-même, je la regarde comme une œuvre. Et la regardant comme une œuvre, je vois le poème. Heidegger ne voit plus que la parole parlante qui est une parole qui réalise une œuvre. Et l'œuvre demande d'être regardée pour elle-même. Et il a tout à fait raison. Une œuvre doit être regardée pour elle-même. Dans une œuvre, la première préoccupation, ce n'est pas de savoir qui l'a produite, c'est de savoir si cette œuvre se tient en elle-même. Quand vous regardez un tableau, si vous êtes artiste, vous ne vous posez pas la première question, de qui ça vient ? Ça, c'est le critique d'art. Mais l'artiste, il dit c'est beau, c'est bien, c'est magnifique. Quand vous regardez un coucher de soleil ou un lever de soleil, vous ne dites pas de qui ça vient ? Dites, c'est bon, c'est grand. Puis après, vous vous demandez d'où ça vient, de qui ça vient. C'est second, c'est pas premier. Quand vous regardez un poème, vous l'écoutez. Et vous vibrez à ce poème. Puis ensuite, vous vous demandez d'où ça vient, de qui ça vient. Oui, c'est second. C'est très important de comprendre ça. Donc, qu'est-ce que fait Heidegger ? Il regarde la parole comme une œuvre d'art, qui se tient en elle-même. Alors que la parole, telle qu'Aristote la regarde, il la regarde avant tout comme un moyen. Aristote fait le parallélisme entre la parole et la monnaie. La monnaie et la parole sont des moyens d'échange. C'est par la parole que je peux le mieux communiquer. Par la monnaie que je suis un bon commerçant. Et vous savez qu'Aristote dit qu'il y a un moment donné, et nous le verrons au point de vue politique, il y a un moment donné où la monnaie devient principe et fin des échanges. Juste l'inverse du troc. Eh bien, il y a un moment où la parole devient principe et fin, le poème. C'est très curieux de voir comment un moyen peut devenir un principe et une fin, alors que par définition, un moyen n'est pas principe et fin. Un moyen est essentiellement relatif. C'est le propre d'un moyen, d'être essentiellement relatif et de ne pas être principe et fin, d'être un métaxu. Le métaxu, c'est justement, ça le grec dit parfaitement la chose, le métaxu, c'est d'être essentiellement relatif et de ne pas être considéré pour lui-même. Ce qui est juste dans une œuvre d'art n'est pas juste au niveau philosophique. C'est très juste au niveau de l'œuvre d'art de regarder le poème pour lui-même. Une œuvre d'art se regarde pour elle-même. C'est le propos d'une œuvre d'art. Parce qu'on réalise quelque chose. Et donc l'œuvre d'art est principe et fin. Mais est-ce que j'ai le droit d'identifier poème et parole? Ça, c'est différent. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'en raison du poème, la parole est principe et fin? Ça, c'est différent. Alors, je vais essayer de voir avec vous d'où vient ce blocage de faire que la parole s'identifie au poème. C'est progressivement, ça s'est fait. Alors, il me semble qu'il y a un moment très important à saisir. Et nous revenons toujours à ce moment très important, c'est Occam. Occam joue, au point de vue philosophique, un moment de très grande confusion. Qu'est-ce que fait Occam? Il identifie métaphysique et logique. Ça, c'est net. Il le dit explicitement. Or, Occam veut être aristotélicien. Donc j'ai parfaitement le droit de comparer la pensée d'Occam et la pensée d'Aristote. Et j'ai parfaitement le droit de me demander si Occam n'est pas à la source cachée, parce que jamais Heidegger se dira occamien, mais de fait de ce que Occam, de ce que Heidegger nous dit. Occam, il est nominaliste. Avant lui, il y a Abélard, hein, les deux grands nominalistes, il ne faut jamais oublier. Abélard, en face d'Abélard, c'est Saint Bernard, et en face d'Occam, il manque un Saint Bernard. Et c'est pour ça que... Mais c'est intéressant de voir les deux nominalistes. Les deux grands nominalistes. Qu'est-ce que ça veut dire, le nominalisme? C'est-à-dire qu'à la place de se référer à la pensée, on considère que le nom et que la parole est un absolu. C'est ce qu'a fait Occam. Alors, Occam le fait en tant que philosophe. Alors, Occam le fait en faisant un organon nouveau. Et c'est très intéressant. Je voulais vous le lire ici, c'est dans un latin un peu difficile, et j'en avais fait la traduction parce que ça m'intéressait. Je ne l'ai plus, parce que dans le déménagement, je ne sais plus où partir au cap, ça ne veut rien, ça n'a pas d'importance. Mais au fond, il y a une traduction qui serait intéressante de voir ici, parce que c'est intéressant de relire de temps en temps la logique d'Occam. Je crois qu'on ne perd pas son temps de le relire, la logique d'Occam. Parce que la logique d'Occam est le lien entre la logique aristotélicienne et la logique moderne. Vous allez voir tout de suite. C'est que pour Occam, la logique, c'est la chose essentielle. Il écrit sa logique pour ses pauvres frères théologiens qui sont dans la confusion. Il le dit textuellement au début de sa logique. Mes pauvres frères théologiens sont dans la confusion, et c'est pour ça qu'ils se disputent toujours entre eux. Le propre des théologiens, c'est de disputer entre eux parce qu'ils sont dans la confusion. Alors il faut qu'ils reviennent à la logique. Et pour lui, la logique, c'est la grande connaissance, puisque la métaphysique se ramène à une logique. Alors, qu'est-ce qu'il va faire de la logique? Occam va tout ramener au problème de la supposition. C'est intéressant de voir que tout se ramène au problème de la supposition. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que la supposition? Eh bien, je vais vous préciser ce que la supposition dans le langage d'Aristote. Et vous allez donc comprendre comment, en faisant ça, Occam va dévier tout le problème de la logique. Et à partir de là, on voit naître la logique moderne, le sens nouveau de la parole, et on voit naître ce que nous voyons aujourd'hui avec le problème de Heidegger. Et donc tout le problème de l'herméneutique. Tout ça se tient. Alors, Il est intéressant de saisir le moment précis où s'est fait la déviation. Et je crois que la déviation, elle est occamienne. Alors, pour Aristote, il y a deux grands problèmes logiques. Le problème de la signification et le problème de la supposition. Le problème de la supposition, c'est le problème du sujet. Le sujet est capable de supponérer. Le sujet est capable de supponérer. Vous comprenez que le problème de la supposition, c'est le problème analogue à la substance. La substance joue le rôle de sujet. La substance première est sujet. La substance métaphysique n'est pas sujet. Mais la substance prise d'une manière concrète est sujet, reçoit les accidents. Le sujet, c'est ce qui est source des accidents. Le sujet, c'est ce qui reçoit les accidents, ce qui est capable d'être déterminé par les accidents. Transposez ça au niveau logique. Le sujet, le nom, est sujet. Le nom remplace la réalité. La monnaie remplace la réalité. Hein, pensez toujours à ça, cette petite analogie d'Aristote qui est très intéressante. Hein, c'est vrai, mes mots, ça remplace la réalité. Si je n'avais pas de mots, je serais obligé dans un cours de réfléchir à toutes les réalités dont je vais parler et de les avoir sous la main pour les montrer. Oui, je vous montre. Alors vous verriez la relation comme ça, vous verriez une connexion. Grâce à Dieu, je peux dire montre, bracelet, sans avoir le besoin de vous montrer ça. C'est quand même énorme. Quand je dis chat, alors vous penseriez à chat. C'est extraordinaire de voir comme le langage simplifie. C'est exactement la même chose pour la monnaie. Avec la monnaie, si on n'avait pas de monnaie, qu'est-ce qu'on ferait? Quels sont les produits de la maison qui pourraient remplacer ces produits de la maison pour un bifteck? Il devrait y avoir des produits spécialisés, une herbe, un élixir merveilleux qui vous permettrait de troquer cet élixir sur le bifteck. Alors vous auriez l'élixir, la lérina, c'est ça, le produit merveilleux qui vous permettrait de troquer la lérina sur le bifteck. Alors vous auriez ça en quantité. La monnaie permet à des gens de ne rien produire. Nous ne produisons rien. Et nous pouvons acheter un bifteck sans rien produire. C'est dangereux. Au bout d'un certain temps, vous tournez les pouces en disant « Je ne produis rien, j'ai de l'argent, c'est suffisant. J'ai l'or, ça me suffit. » C'est très curieux, vous voyez. Le mot va au bout d'un certain temps remplacer la réalité. Et c'est ce qui va se passer avec Occam. Et c'est pour ça que le problème de la supposition va devenir le problème principal. Pour Aristote, quel est le problème principal? C'est le problème de la signification. C'est le problème principal, c'est la signification. Parce que la signification me met directement en relation avec le signifié, avec le totem et darem, l'acuité. Quand je dis chat, je pense à la signification chat, et c'est en référence directe avec la réalité chat. Quand vous dites ce chat est habile, c'est second. Il y a d'abord eu chat, et puis il y a eu ce chat. Et ce chat supponite en fonction de la signification choc. Ça, c'est sûr. En raison de la signification, ça. Si je dis ce chat est intelligent, non supposé. Parce que chat est un animal qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas intelligent. Mais si je n'ai pas la supposition, si je n'ai pas la signification, je peux dire ce chat supposé intelligent. Qu'est-ce qui me permet de ne pas mettre intelligent? Puisqu'il n'y a plus de signification. Et c'est ça qui est le problème, je crois, capital chez Occam, c'est que la signification va être en subordination avec la supposition. Alors que pour Aristote, la signification est première et vient limiter la supposition. Pour Occam, le problème de la supposition devient premier et engendre la signification. C'est curieux, hein? Toute petite erreur. Alors ça, ce serait très intéressant à comparer avec l'erreur de Descartes. Nous y reviendrons. Hein? Mais il fallait reprendre tout ce détour-là pour comprendre le problème de la supposition du sujet lié à la signification, alors que pour Occam, la supposition est première, et la supposition mesure la signification. En réalité, le grand problème